I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans le troisième épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à enfiler votre petit bandana de scout, à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et à vous laisser porter par l'histoire que vous allez entendre. On est en 2009, je n'ai jamais quitté Toulouse, ma ville natale. Je n'ai encore ni chaîne YouTube, ni compte Instagram. Je suis assez fière parce que j'ai Facebook depuis 2 ans. Je suis graphiste dans une maison d'édition. Plus précisément, je suis spécialisée dans la mise en page d'un trimestriel, un magazine qui sort tous les 3 mois. J'ai le bureau de mes rêves dans un open space avec des figurines de Bob l'éponge qui traînent sur des piles de magazines. Je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Internet et je découvre les premiers blogs. Je tombe sur un blog en particulier d'une Toulousaine curieusement appelée Bobby, qui officie sur le blog Bobby.cool. Je dévore ses articles. Je ris comme une baleine devant le monticule de gifs postés tous les jours. Son amour pour Britney et la pop culture me mettent des paillettes dans les yeux. Et 1 an plus tard, un poste de directrice marketing est à pourvoir dans la maison d'édition. Et Bobby, la Bobby, colle son bureau au mien. De toute façon, Toulouse, c'est un peu comme un camping. Faut croire que c'était le destin. Mes journées sont donc rythmées au son de Pauline, c'est son vrai nom, qui se bidonne en permanence et qui écoute principalement de la pop, de la dance ou de la country. Mais ça bosse dur. On est collègues, on devient amis, on rit, on sort, on danse. Je déménage à Madrid, elle vient, on sort, on rit, je reviens vivre à Toulouse. Et un jour, Bobby ne rit plus autant. Bobby est bipolaire. Le mot bipolaire, il fait peur. C'est un peu paradoxal car il fait peur autant qu'il fascine. Et notamment lorsqu'il touche des célébrités. Kanye West est diagnostiqué en 2017, Catherine Zeta-Jones est diagnostiquée en 2001, ou encore Britney, l'idole de Pauline dont les paparazzis ont allègrement immortalisé le rasage de tête. Mais la liste est longue, très longue. Le trouble bipolaire était autrefois appelé psychose maniaco-dépressive. Et c'est une maladie, oui. Elle entraîne des dérèglements de l'humeur. Dans sa forme la plus typique, elle alterne des périodes d'épisodes maniaques et d'épisodes dépressifs. Pauline nous raconte donc le jour où son monde s'est écroulé sous le poids d'un cerveau qui a une case en plus.
Do you feel that I'm feeling? Do you feel that I'm being free?
Major depression, bipolar disorder.
And it appears to show the pop star shaving her own head.
Manic depressive illness, also called bipolar disorder.
La maladie mentale est un enfermement qu'on n'arrive pas à sortir.
Free Britney.
Alors, je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans, je suis mariée depuis maintenant 6 ans déjà. J'ai une petite fille qui a 4 ans. C'est un amour, je pourrais vous en parler pendant des heures. Une petite blonde qui nous fait tout ce qui est possible. Et j'ai des passions dans la vie. Je pourrais vous parler des heures de Britney Spears. J'ai fait un fanzine sur Dolly Parton. Enfin, tous les trucs où mes copines avaient un peu honte, n'assumaient pas vraiment d'aimer. La première fois qu'on est sortis ensemble et que j'ai pété un plomb sur les Spice Girls, elles se sont dit « Ah ouais, quand même on a le droit de faire ça. » Et maintenant, bah ouais, elles le font aussi et c'est vraiment un truc que je kiffe. Je suis quelqu'un, moi, qui est très créatif. J'ai besoin d'écrire tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que j'écrivais pour mon blog et à un moment, je me suis retrouvée à écrire sur Feu Retard Magazine, il n'existe plus maintenant. Et j'avais une chronique à moi qui s'appelait « Comment j'ai dit merde à la mère parfaite ». C'était génial, c'était une fois par mois, je leur écrivais un super gros article sur un thème qui était « On attend ça d'une mère, bah va chier quoi ». Et franchement, on rigolait trop, on sortait sans arrêt, c'était cool.
Est-ce qu'on peut dire le nom de ton blog ?
Ouais, mon blog, il s'appelait à l'époque Bobby.cool.
Et c'est devenu ton surnom, du coup ?
Et c'est devenu mon surnom, tout le monde m'appelait Bobby. Et à la base de la base, Bobby, c'était parce que j'étais jusqu'au taquet sur Robert Pattinson.
I'm Edward Cullen.
Et mais vraiment, oui, c'est le truc, ça n'a absolument pas changé, quoi. Et donc, Bobby est resté. Et j'ai encore beaucoup de gens qui m'appellent Bobby. Et c'est très étrange parce que c'est des gens qui sont très, très proches de moi et qui le disent devant mes parents.
Et c'est terrible parce que je t'appelle encore Bobby.
Mais oui, je te dis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'appellent toujours Bobby. Et ça ne me gêne pas du tout parce que c'est une période, la période Bobby, que j'ai adorée.
La période Bobby. Ce que je retiens de ton caractère, et c'est ce pourquoi je suis tombée déjà amoureuse de toi via ton blog, c'était ta façon de t'exprimer. Ça partait dans tous les sens. Il y avait des gifs qui explosaient de partout sur ton blog. T'aimais les mêmes films que moi. T'étais féministe avant l'heure. Je savais même pas ce que ça veut dire, moi, à l'époque. Et t'étais tout ce qu'on n'était pas, en fait. T'osais dire tout ce qu'on n'osait pas dire. Tu riais de tout, et tu ris de tout, parce qu'on rigole bien, mais tu avais ce truc de désamorcer de ce que je me souviens quand je travaillais avec toi, puisque après, on était dans un environnement un peu spécial, mais de toujours désamorcer les situations que parfois on n'arrive pas à désamorcer, parce qu'on est trop proche de son ego, parce que... Et ben toi, non.
Mais j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été la meuf de bonne humeur, en fait. J'ai oublié d'en parler, mais... Il m'en voudra pas. J'ai rencontré mon mari à mon époque Bobby. Et il s'avère qu'on a fini par se marier. Et depuis ces 6 ans, donc, on a eu des hauts débats, comme tout le monde, comme tous les couples. On a eu pas mal de hauts. On a eu beaucoup de hauts. Mais quand ma fille est née, en fait, ma fille est née avec une double dysplasie des hanches. Donc, elle a porté un harnais pendant 6-7 mois pour se remettre les hanches en place. Mais une fois qu'on a pu dire « c'est bon, on a fait ce qu'on a eu à faire des hanches, là, ça va », ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'être couchée avec ses hanches, elle a la tête qui a été déformée. On a dû la faire suivre par un neurochirurgien parce qu'elle avait le crâne qui était tellement déformé que ça aurait pu lui poser des problèmes neurologiques. Et donc, elle a porté un casque. Elle a porté un casque remodelant. Donc, ça a duré 6 mois aussi. Ça a duré 1 an. Et bon, bah maintenant, elle est super. Hein. C'est une petite blonde avec... on voit plus rien, quoi. Hein. Et donc, tout ça a été assez dur. Et le moment où elle est rentrée à la crèche et que moi, je n'avais plus à faire ça de la journée, parce que j'ai été un robot pendant 1 an pour m'occuper d'elle. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Tu te mets en mode robot. Et une fois que j'ai passé ça, j'ai eu une dépression, mais atroce. Vraiment, j'étais là, je ne sers plus à rien. C'est bon... elle parle, elle marche, je ne sers plus à rien. Et ma médecin traitante m'a dit « Pauline, je ne peux plus rien pour toi, là. Il faut que tu ailles voir une vraie spécialiste, une psychiatre, parce que c'est trop pour moi. » Donc, ma petite sœur m'a conseillé une psychiatre et on a beaucoup discuté. Je lui ai dit « Oui, voilà, je fais une dépression postpartum. » Elle me dit « Non, ça, c'est à moi de le dire. » J'étais là « Bon, ok, super. » Et on discute. Elle me pose des questions sur ma famille, sur moi. Et j'étais là « Mais quand est-ce qu'elle va me poser des questions sur mon accouchement ou sur ma fille ?» Au bout de 2 séances, elle m'a demandé de faire chez moi une courbe des moments où je me sentais bien ou pas bien dans ma vie. Et en la faisant, je me suis rendu compte que ma vie avait été faite de haut, bas, haut, bas, haut, bas.
J'avais l'impression que c'était les montagnes russes.
Ouais.
Maintenant, et tu t'en rends encore plus compte quand tu le visualises, de te voir faire le dessin, j'imagine, sur le papier.
Oui. Et donc, je suis revenue à la 3e séance avec ce dessin. Elle me dit « Très bien ». Elle me regarde, elle me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé à ces moments très bas? Et je lui explique. Après, donc, ça a duré 1 an. Et on a continué d'étudier ma courbe où il y avait des très hauts, des très bas, des très hauts, des très bas. Et là, elle me dit, mais vous avez beaucoup de bas avant votre fille. Donc, je lui ai expliqué que j'ai fait deux fausses couches avant de réussir à avoir ma fille, qui ont été horribles. Ça a été très, très dur. Après ça, je suis tombée enceinte, ça a marché, on a eu notre petit bout. Et malheureusement, elle était mal. Et le problème en plus, c'est que ce qu'elle a eu aux hanches, je l'ai eu petite aussi, et c'est héréditaire, donc il y a la grosse culpabilité qui arrive derrière et qui te prend dans la gueule, t'es content.
La psy, une fois qu'elle découvre tout ça, jusqu'à ton présent du passé, qu'est-ce qu'elle en pense ?
Elle m'a demandé à moi ce que j'en pensais, j'ai commencé à comprendre où elle voulait en venir. Et la dépression postpartum, à partir du premier où elle m'a pas, où elle s'en foutait, où elle voulait pas l'entendre, je me suis dit c'est qu'il y a autre chose. Et quand j'ai fait la courbe, j'ai su, j'ai compris. Je connaissais la maladie parce que je m'en suis vachement intéressée quand Britney Spears s'est rasé la tête. Donc j'étais une pro de la bipolarité.
J'étais pro de la bipolarité grâce à Bri-Bri. Comment on t'a annoncé, comment on annonce le verdict ?
Elle ne me l'a pas annoncé tout de suite, mais à la séquence suivante, on en a parlé. Et donc, elle m'a expliqué que j'étais bipolaire de type 2. Il existe plusieurs formes de bipolarité. La bipolaire de type 2, la dépression est plus fréquente que la phase maniaque, c'est quand tu es au plus haut.
Toi, par exemple, dans tes moments de... T'appelles ça des moments de manique. Est-ce que tu as des anecdotes, de souvenirs de plus gros moment de up?
J'en ai deux qui me viennent en tête. Le premier, c'est qu'un jour, avec mon mari, on reçoit un énorme colis qui vient d'Allemagne. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as commandé ? Rien. Il me dit, et toi, qu'est-ce que t'as commandé ? Bah, rien. Je lui dis, tu connais quelqu'un d'Allemagne ? Il me dit, non. Et toi, non. Bon, on l'ouvre. J'ai acheté un banjo.
Tu le savais pas, tu t'en rappelles plus ?
Je n'avais aucun souvenir et je ne m'en souviens toujours pas. J'ai acheté un banjo. Il est là-bas, on a choisi de le garder dans le salon. On aurait pu le renvoyer, mais on a choisi de le garder parce qu'il représente bien cette phase maniaque qui, au final, nous a vraiment fait rire tous les deux, quoi. Le gros problème de la bipolarité, c'est que la plupart des gens se retrouvent surendettés parce que, bon, moi, ça va, j'ai acheté un banjo, mais eux, ils vont aller s'acheter une robe Dior à 5000 balles, quoi. Et il y a eu une autre période où on allait à Milan. J'avais été mal en avion, je sais pas, j'avais mal au ventre, j'étais stressée et tout. On arrive, on prend le bus pour aller au centre-ville et là, j'avais mal au ventre, la nausée. Et mon cerveau me dit, mais c'est parce que t'es enceinte. Et j'étais là, oh putain, je suis enceinte et tout. Comment je vais l'appeler ? Je voulais l'appeler Nova. J'étais là, oh, trop mignon. Oh, génial et tout. Et on arrive et je fais à Rémi, je suis enceinte. Il me regarde, il me fait, t'as fait une thèse de grossesse ? Non. T'as compté les jours ? Non. Mais comment tu sais que t'es enceinte ? Il me fait, bah, je suis là, j'ai envie de vomir et tout, je me sens pas bien. Il me fait, ouais, on va acheter un test de grossesse en arrivant, en fait. Il commence à me connaître, donc il sait que c'est pas lui qui pourra me changer, mais qu'il faut que je le voie de noir sur blanc. Et bon, en effet, je n'étais pas enceinte du tout, hein. C'est juste que j'avais le mal, j'étais malade dans le bus, comme ça arrive à des centaines de personnes qui ne sont pas enceintes d'une petite Nova.
Sachez que si vous êtes malade dans un bus, vous êtes
faites un test quand même, hein.
Faites un test, on ne sait jamais. C'est ça qui est fou, c'est la puissance de ce que ton cerveau veut te dire ou te faire croire ou te montrer.
Surtout que quelques mois auparavant, je suis tombée enceinte et le problème était que je prenais tellement de cachets et j'avais eu tellement de mal avec le handicap de ma première fille que j'ai pas pu. On n'a pas pu, donc je me suis faite avorter. Et quand je me suis fait réveiller de l'opération, je regarde la femme, elle me dit « ça va et tout ?» Je lui dis « oui, quand est-ce que je pourrais prendre mon bébé dans les bras ?» Et en fait, je parlais de ma première fille pour savoir quand est-ce que je pourrais la prendre dans les bras. Et là, l'infirmière me regarde, elle regarde ça, regarde la meuf à côté d'elle et elle fait « je vous amène quelqu'un pour discuter oh, ». Le truc horrible. J'étais là, mais enfin bon, je sais pas, je pose juste une question.
Oh, c'est terrible, elle a dû être si mal.
La meuf, elle était pas bien.
Parce que du coup, tu as été sous traitement assez rapidement après le diagnostic. Comment ça se passe, les traitements, quand on est bipolaire? Parce qu'il me semble bien que c'est extrêmement compliqué.
Les traitements, quand on est bipolaire, elle me l'a dit tout de suite. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre 10 ans pour trouver le bon traitement. J'ai testé, mais un paquet de médicaments. Mais quand je dis un paquet, c'est que là, par exemple, en ce moment, j'en prends 12 par jour à heure fixe, quoi.
Moi, j'ai une question, du coup. C'est quoi la différence entre une entre une phase où tu es en up et une phase où tu es en down? Donc, c'est soit maniaque, soit dépression. Tu n'as pas vraiment de
non, milieu. J'arrive pas à avoir le milieu.
Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne?
La phase de dépression, c'est dans mon lit, dans le noir, toute la journée. Rien d'autre. Ma fille rentre de l'école, elle veut me raconter l'école. Elle a l'habitude, elle se crème dans le lit, elle se colle à moi, elle me le raconte. Et après, elle me dit « Bon, bah, maman, t'as encore mal à la tête ?» Je dis « Oui, ma chérie, j'ai encore mal à la tête. » Et elle me dit « J'en ai marre que t'es mal à la tête tout le temps. Quand est-ce que tu guéris ?» Et je dis « Mais malheureusement, je ne vais pas guérir, mon amour. J'aurai toujours mal à la tête. » On a choisi avec mon mari de lui dire la vérité, c'est-à-dire de lui dire que j'ai mal à la tête. Ça n'est pas mentir. On lui dira, et ce mal à la tête s'appelle la bipolarité plus tard, quand elle aura l'âge de le comprendre.
Quand tu es en phase maniaque?
Et quand je suis en phase maniaque, je sors beaucoup. Je vois beaucoup les copines, on fait n'importe quoi. Je me couche à 6 heures, ou alors je reste debout à créer des trucs. Tout et n'importe quoi, je brode, Je brode pendant la nuit jusqu'à... Je dors 2 heures par nuit parce que j'ai brodé des trucs, parce que j'ai décidé de créer un blog avec uniquement des captures d'écran d'épisodes de Columbo. Enfin, j'ai tout fait, quoi. Et ces phases sont très dures parce que, en fait, t'as l'impression d'être le plus créatif que tu n'as jamais été et t'as pas envie que ça s'arrête parce que c'est génial et tu te sens bien, tu te sens sûr de toi et... T'as pas du tout envie que ça s'arrête, mais plus tu es créatif et plus c'est dangereux pour ta santé. Comme par exemple le banjo, je m'étais mis en tête que j'allais faire une exposition où j'allais mettre tout ce que j'ai créé et tout. J'allais mettre 3 merdouilles que j'ai créées et que pour finir l'exposition, j'allais faire une performance en jouant au banjo, quoi. Et Rémi m'avait dit, mais tu ne peux pas faire ça, en fait. Et j'étais là, ouais, mais t'es qu'un gros con, tout le monde croit en moi, sauf toi, et tout, enfin...
Est-ce que t'avais déjà pris un cours de banjo?
Bah non, ils en font pas à Toulouse, en plus. Mais je vais même pas m'en servir de ce truc, des gling-gling, enfin bon. Oh là là, non, la cata, quoi. Après, j'ai eu beaucoup de commandes de magasins ou quoi qui me demandaient beaucoup de choses. Par exemple, j'en sais rien, 50, 60 veste à broder ou alors pour un autre resto, 15 tabliers ou des choses comme ça. Et c'était pour vite. Je sais pas pourquoi, j'étais pas bien, tu sais, j'étais là... Putain, je vais pas y arriver, je vais pas arriver à les livrer, je vais pas les livrer. Et j'étais là, j'avais les ciseaux dans la main ou quoi. Je me suis mise à commencer à me scarifier les bras parce que j'étais pas bien. Je me disais que physiquement, si je me faisais mal physiquement, j'allais moins avoir mal mentalement de pas y arriver. Et c'est une habitude que j'ai commencé à prendre à partir de ce moment-là. Et qui n'est pas parti. Et après, Rémi m'a dit qu'il voulait venir avec moi voir ma psychiatre. Et on a tous les trois pris la décision de m'inscrire dans un hôpital, une clinique psychiatrique, de faire cette demande. C'est la clinique d'Aufrérie à Toulouse. Certains connaissent peut-être. Donc c'est une clinique qui est spécialisée dans les maladies mentales. Et par maladie mentale, je parle de la bipolarité, de la dépression profonde. Il y a aussi la schizophrénie et tout ce qui est dépendance. Les dépendances à l'héroïne, l'alcoolisme par exemple, tout ça va être géré là-bas. À la base, c'était un château avec des nonnes et tout. Et ils l'ont refait. Et ils ont eu un prix de l'architecture d'ailleurs, donc c'est un endroit où tu te sens bien. Quand ma fille est venue me voir, elle me dit « Ah mais t'es à l'hôtel en fait
!» Et quand on décide d'aller dans une structure comme celle-là, est-ce qu'on sait combien de temps on va rester ?
On ne sait pas combien de temps on va rester. Ma psychologue m'avait dit « Vu ton niveau, ça sera 3-4 semaines. » Et en effet, ça a été dans 4 semaines. Et je l'ai très mal vécu, très très mal vécu. La première semaine, c'était horrible. Je passais mes journées à pleurer en pyjama. Le truc, c'est que d'un coup, tu réalises que t'es interné en hôpital psychiatrique. Ça veut dire que t'es vraiment malade. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu es en hôpital psychiatrique. Tu as dû te faire interner en hôpital psychiatrique. Et tu vois les gens autour de toi. Ils sont complètement pimpins. Et tu te dis, mais je peux même pas les juger. Ils sont comme moi, quoi. Par exemple, il y a le deuxième soir, il y a une meuf qui frappe à ma porte à 22h et qui me demande si elle peut utiliser mes toilettes. Je dis, bon, bah oui, allez-y. Mais j'ai dit oui parce que je c'est pas que j'avais peur, mais je savais pas pourquoi elle était là ni rien, quoi. Et elle y est restée très longtemps. Et moi, j'étais...
Très longtemps comment ?
Je sais pas, très longtemps. Genre... 10 minutes.
Très longtemps, c'est dit. En marque, un étranger dans cette toilette pendant 10 minutes, ça peut paraître.
Et en même temps, j'avais mon téléphone dans la main et je parlais à mes potes sur WhatsApp et j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi elle est là ? Et c'est après ça, je suis allée les voir, je suis allée voir les infirmiers. Et ils me disent, mais vous n'avez absolument pas le droit d'être à deux, en fait, de faire rentrer quelqu'un d'une autre chambre dans votre chambre. Vous avez les salles de pause si vous voulez discuter ou jouer aux cartes ou quoi que ce soit.
Faire jaquer tes toilettes en même temps. T'as pas eu trop de choix.
Qu'est-ce que j'ai ri après.
Et est-ce qu'il y a des... du coup, des ateliers et des choses.
Il y a des ateliers qui sont obligatoires. C'est-à-dire que c'est autant obligatoire qu'un médicament. Moi, j'avais choisi l'atelier écriture, l'atelier moulage et l'atelier collage. Il y avait un truc, une séance de sport.
Est-ce que c'est justement ces moments-là qui permettent de mieux se connaître ?
Ce sont les moments où tu rencontres des gens, en fait. Et moi, je suis quelqu'un qui parle. Je dis pas que je suis super bavarde ou que je parle aux inconnus parce que je suis hyper introvertie et j'ai tendance justement à ne pas parler aux inconnus. Mais t'es là, t'as tellement parlé à personne dans ta chambre que tu parles un peu aux gens. Tu leur dis « Ah, c'est rigolo que t'aies collé ça, machin, le moulage, tu fais quoi, toi ? Ouais, c'est bien fait. » Les ateliers d'écriture étaient hyper intéressants, vraiment très intéressants. des ateliers d'écriture où tu te livres beaucoup. Et donc, oui, les gens ont su pourquoi j'étais là. Et d'autres personnes étaient là pour la même raison, etc. D'accord. Et au moulage, il y a un des mecs qui est tombé amoureux de moi. Et qui m'a fait un moulage. Ouais, c'était la romance interdite de Prairie. Et il m'a fait un visage porte-encens. Déjà, je déteste l'encens. C'est un truc, pour moi, ça pue. C'est les bâtons qui puent. Et ça faisait peur, le truc. Oh, mais vraiment peur, quoi. C'était horrible. Et après, il y avait eu... genre deux jours avant un atelier d'écriture où c'était qu'est-ce qu'il vous manque le plus, et moi en fait j'avais compris qu'est-ce qu'il vous manque le plus genre dans votre vie ou à Aufrérie ou quoi, ou puis j'avais répondu ma petite fille, son odeur, la prendre dans mes bras, et le mec il était en face de moi, il m'avait regardé droit dans les yeux, il m'avait dit le corps d'une femme. Oh. J'étais là, oh, laisse-moi tranquille. J'ai rien fait pour mériter ça. J'ai rien fait pour mériter ça.
Il y a des moments où tu avais envie de t'isoler, parce que on sait que quand on se sent un peu vulnérable, on a envie de, bah, comme tu étais à la maison, de pouvoir te mettre dans ta chambre, fermer les volets, regarder une série ou lire un bouquin. Est-ce que t'arrivais à pouvoir t'isoler dans ce genre de structure ?
Oui, tu peux bien t'isoler dans ce genre de structure, parce que moi, je demande toujours des chambres seules. Ouais, je me mettais au lit avec Giuseppe à la télé. J'avais fait exprès de ne pas prendre mon ordinateur parce que je ne voulais pas, en fait, avoir l'occasion de travailler dessus ou des trucs comme ça. Je voulais vraiment être... Pénarde, quoi. Ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a qu'une fois où j'avais été mal pendant toute la matinée. J'en pouvais plus. Et le repas du midi, j'y suis allée, mais à reculons. Et j'y suis allée en pyjama, en fait. Et là, il y a une des infirmières qui est venue, mais qui m'a engueulée, mais genre engueulée, quoi.
Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'elle a dit genre...
Parce qu'elle a dit que c'était une question de respect pour moi et pour les autres et tout.
Genre, Pauline, t'as lâché la rampe.
Ouais. Non, mais c'est ça, elle m'a vraiment engueulée, quoi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est une question de respect pour soi-même, on s'habille et tout. J'avais amené que des joggings, donc que je sois en jogging ou que je sois en pyjama, meuf quoi. Mais bon, après sinon je parle d'elle, mais tous les autres aides-soignants, j'ai sympathisé avec eux et ils étaient mais plus qu'adorables. Enfin, ils étaient super, ceux de mon étage. J'avais la pièce qui était le plus près d'eux, en plus, et vraiment, ils venaient me voir, ils me disaient « t'es sortie aujourd'hui, t'as pris l'air aujourd'hui, va faire un petit tour, ça va te faire du bien,
elle était bien
comment
accompagnée.
Va ta fille ?» Elle leur avait fait un dessin et tout, enfin, ils étaient très très gentils. Les deux premières semaines qui ont été vraiment très dures, et j'y arrivais pas. J'avais l'impression que l'endroit ne m'apportait rien.
Même les ateliers, tout ça
Ouais, non, ça m'apportait rien, quoi.
Tu pouvais pas sortir, du coup, enfin, tu pouvais pas rentrer chez toi.
Bah, il me dit, si t'es pas enfermé, tu peux rentrer quand tu veux, mais bon...
C'est pas le but du...
Ouais. Et j'ai fait semblant d'aller bien, quoi.
Pendant
je savais ce qu'ils attendaient. Et j'étais là, oh, ça va mieux et tout. Ouais, non, j'ai super bien dormi, machin. Et ils ont fini par me laisser sortir plus vite que ce que j'aurais dû sortir. Et donc, c'est vrai que j'ai fait ça. Maintenant, est-ce que je regrette de l'avoir fait ? Absolument pas.
D'avoir fait semblant pendant 15 jours ?
Ouais. Parce que j'aurais pas pu rester plus. C'est parce que c'était pas possible.
Oui, c'était pas approprié à ce moment-là pour toi.
Non.
Mais est-ce que tu regrettes d'avoir fait les 15 premiers jours ?
Non, ils m'ont beaucoup servi.
Donc, voilà.
Ça m'a servi, mais c'était trop à la fin.
Ok. Et après ça,
qu'est-ce que... Et après, je suis ressortie, donc je suis revenue à la maison et ça a été un enfer. C'est-à-dire que là-bas, tu es dans un cocon. Tu es dans ta chambre, il n'y a aucun bruit autour, il n'y a pas de voiture ni rien. Personne vient te parler. Enfin, tu es dans un cocon, il n'y a pas d'autres mots. Et revenir dans la vraie vie, il m'a fallu une semaine pour sortir de l'appartement. La première fois, j'ai voulu aller avec Rémi au Monoprix, tu vois, pour essayer, mais j'ai fait un malaise, quoi. Je ne pouvais pas, c'était... Tout m'a agressé. Le premier jour où je suis revenue et on a mangé à trois, d'un coup, il y a eu une manifestation des Gilets jaunes. Je suis partie en courant dans la chambre. C'était trop violent pour moi. Mais après, petit à petit, ça s'est fait, ça s'est refait, c'est redevenu normal. C'était en janvier de cette année, en janvier 2020, que ça s'est passé. Par contre, je faisais encore pas mal de cauchemars. Parce que là-bas, en fait, la nuit, ils checkent que tu dormes.
Oui, ils viennent te voir dans ta chambre.
Ils viennent te voir dans ta chambre, tu sais, avec la petite lampe de poche pour voir si t'es pas tombé du lit ou... Si tu t'es pas mort, quoi. Et j'en parlais à Rémi. Je lui dis, mais putain, ils font ça, ils ont que ça à foutre. Et Rémi, il me dit, mais tu sais que je fais pareil, quoi.
Et tu savais pas.
J'en avais aucune idée. Et c'est là, entre autres, que je lui dis, mais t'es mon mari, t'es pas mon aide-soignant. Et c'est très, très, très dur pour un couple, en fait. C'est-à-dire que lui veut m'aider, mais il ne veut pas me mettre un coup de pied au cul parce qu'il sait pas si c'est ça qu'il doit faire. Ou si au contraire il doit laisser faire les professionnels et lui être là à la maison. Et c'est très très dur pour lui au quotidien parce que ça le saoule.
Je pense
que
ça doit être difficile de voir les gens qu'on aime souffrir et qu'on ne sait pas comment forcément être l'amoureux et l'infirmier en même temps. Ça doit être dur de jauger et de doser cette aide.
En fait, ce qui est dur là-dedans, c'est que quand c'est une maladie physique, c'est plus facile. Mettons, si j'étais coincée à la maison avec un plâtre sur toute la jambe et je peux pas bouger, je peux pas bouger. Tandis que là, c'est juste dans ma tête. Et un moment où il se dit, mais attends, mais c'est bon, tu me saoules là, va au moins te laver, quoi. Et ça, c'est dur parce que... On se dit des choses très dures dans ces moments-là parce que moi je suis là, ouais, mais de toute façon tu peux pas comprendre. Et lui il me dit, ouais, mais je peux pas comprendre parce que tu m'expliques rien. Et je t'explique rien parce que tu peux pas comprendre, même si je t'expliquais, parce que t'es pas moi. Et c'est très dur comme genre de choses. Et là, en fait, c'est moi toute seule qui ai pris la décision de retourner à Aufréry. On est au mois de novembre, de octobre, pardon, encore. Et je pense que, vu les places, je vais y aller en...
On est en novembre.
Ah merde, on est en novembre, pardon. Mais attends, j'ai eu une période, je ne te l'ai pas dit, où dès qu'on me demandait la date, je réponds qu'on était le 9 février.
Ah, tout le temps.
Tout le temps. C'était, j'étais persuadée qu'on était le 9 février.
Comme un jour sans fin, le Exactement. Jour de la marmotte.
Et c'est Élise, une copine à moi, qui me fait « Mais qu'est-ce qui s'est passé le 9 février ?» Et je commence à faire, tu sais, tout mon calendrier, chercher tous les agendas et tout. Et en fait, le 9 février, c'est le jour où j'étais allée me faire avorter. Ouais. Et c'est fou ce que le cerveau peut garder comme truc.
Violence.
Après, au Fréry, en fait, Rémi a parlé à un ami à lui qui travaille à Purpan. Et à Purpan, il y a un grand spécialiste de ça qui m'a fait faire des tests. Et les tests, je regarde au début, c'était super facile. C'est genre, est-ce que vous savez quel jour on est et tout. J'étais là, est-ce que vous savez chez quel jour on est ? Il ne faut pas être de deux. Alors que moi, je croyais qu'on était le 9 février. Après, il y avait des animaux. Il fallait dire les noms des animaux. Je n'ai pas réussi à le faire. C'est-à-dire, c'était des trucs, mais je n'y arrive. Mon cerveau... à une girafe, je ne trouvais plus le mot, quoi. C'est-à-dire que quand je vais bien aujourd'hui, je sais que c'est une girafe. Le cerveau est tellement malade.
Mais c'est fou parce que ce qu'on doit ressentir, parce que tu me l'as, quand on se l'était dit, tu m'avais dit, genre j'ai bac plus 5, j'ai un master 2 et je sais pas dire ce qu'est une girafe. Ça doit être quand même super perturbant de dire merde, qu'est-ce qui se passe?
Ah non, mais ouais, ce qui m'a fait vraiment peur, c'est de me dire, mais est-ce que c'est pour toujours, quoi? Et m'a expliqué, non, ça va aller, ça dépend, c'est parce que là, vous êtes en grosse, grosse crise, donc voilà. Ensuite, j'ai fini par retrouver un travail. J'ai pas voulu retourner à Airbus ou dans l'aéronautique parce que c'est trop de stress
parce
pour
que
moi.
C'était trop d'épanouissement chez
Airbus. Ouais, c'était beaucoup trop d'épanouissement. J'avais peur d'être trop heureuse. Et j'ai eu la chance de trouver à la mairie un travail de responsable sécurité des musées de Toulouse. Et le problème, c'est que très vite, ça a été du stress aussi et mon cerveau l'a pas supporté. Ma psy m'a donné du lithium en sortant d'Aufrérie. Depuis le début, elle me disait, on va essayer le lithium, c'est le mieux et tout. Donc, j'ai pris le lithium et au bout de 2-3 mois, j'ai fait une réaction. C'est-à-dire que je me suis mise à trembler comme pas possible. J'arrivais plus à écrire, je suis tombée dans les pommes au travail. Je me suis endormie en réunion. Enfin, je devais aller faire des prises de sang tous les 3 jours pour regarder que les... que mes reins aillent mieux et que la thyroïde rebaisse, etc. Quoi. C'était
ça
vraiment...
fait une allergie au lithium.
Ouais, et c'était hyper, hyper fort. Et je me dis que peut-être que si pendant 3 ans, 3-4 ans, je ne voulais pas en prendre, peut-être que mon cerveau savait que je ne le supporterais pas. Ou au contraire, peut-être que mon cerveau a fait exprès de ne pas le supporter pour dire « t'as raison, le prends pas ». Mais ça a été très, très, très violent. Moi. Donc j'ai fini par être obligée de leur dire la vérité sur ma maladie et depuis j'ai beaucoup de réactions pas cool du genre il nous faut quelqu'un de fort psychologiquement pour ce poste.
Mais quand tu fais ton entretien justement, ils le savent? Est-ce que c'est quelque chose que tu dis quand tu es en entretien d'embauche?
Non, je le dis pas parce que je pensais vraiment ne pas avoir à le dire et pouvoir tenir avec les médicaments. Parce qu'à ce moment-là, je me sentais bien et puis ils ne m'auraient pas prise.
Et du coup, est-ce que tu as essayé une autre alternative?
Et du coup, en fait, j'en ai beaucoup parlé à ma psychiatre. Elle me dit « Non, mais là, je vous arrête pour un mois et on va faire ensemble tous les papiers pour le MDPH. »
C'est-à-dire qu'un jour, tu te retrouves à faire des papiers pour être
ouais,
comme
ouais, il y a ça. Donc nous à l'époque ça s'appelait Cotorep quand j'étais jeune et c'était la blague quoi. Tu vas finir Cotorep, tu vas finir à Aufrérie parce que le bus scolaire il passait devant Aufrérie et on était là les tarés d'Aufrérie ou alors les neuneux de la Cotorep et je suis en train de m'inscrire pour devenir tout ce que dont on se moquait quand on était jeune et c'était pas ma vie sur le papier quoi.
C'est que c'est pas une maladie qu'on attrape, c'est
ouais,
un virus.
C'est-à-dire qu'on n'attrape pas la bipolarité. C'est pas un jour j'ai eu un choc et je suis devenue bipolaire. On le porte, on est avec. On peut avoir la chance de jamais le sortir. C'est une chance énorme. C'est quelque chose qu'on porte en soi.
Et qui peut sortir...
N'importe quand ou...
On ne devient pas bipolaire.
On ne devient pas bipolaire. Voilà.
Est-ce que tu as peur que ta fille...
Ouais, si je lui refile ça, ça va être très dur. Mais là où je me dis que ça va être moins dur, c'est qu'étant passée par là, je pourrais peut-être mieux l'aider.
Bien sûr. Et une vraie question pour moi en tant que proche, comment on doit agir, je ne parle pas pour les bipolaires en général, mais comment t'aimerais qu'on agisse avec toi ? Est-ce que, par exemple, tu préfères qu'on t'appelle, qu'on insiste ? Est-ce que tu préfères qu'on te laisse un peu dans ta bulle ? Qu'est-ce qui est le mieux ?
Le mieux est qu'on me laisse dans ma bulle, c'est-à-dire si on appelle, je ne décrocherai pas. Après, beaucoup de gens l'ont compris, je reçois des textos, très gentils textos, je les lis, mais je ne réponds pas forcément. Je n'ai pas forcément la force de me répondre. De temps en temps, j'ai des amis qui m'envoient juste un cœur. Tu vois, ils m'envoient juste un cœur et juste ça, ça me fait du bien, mais je renvoie un aussi. Et puis voilà, je ne suis pas prête à ce qu'on me force à me parler. Je me force à parler à mon père parce que mon père m'appelle tous les soirs et si je ne lui réponds pas, il est vraiment très inquiet. Lui, je le comprends parce qu'il a perdu quelqu'un dans ces circonstances. Donc, puis c'est mon père, donc voilà, je réponds. Donc, c'est pas évident d'être... Il y a une culpabilité énorme face à ceux qu'on aime qui se rajoute à la maladie et c'est ça qui est très dur. Et en fait, ça, je l'ai beaucoup travaillé. Parce que ma psy, au début, elle m'avait dit « Si vous étiez un objet, qu'est-ce que vous seriez ?» J'avais répondu « Un paillasson ». Je suis désolée, ça me fait rire avec le recul.
Il y a mieux.
Il y a mieux. Il y a pire. Elle m'a dit « Mais est-ce que vous... » Elle m'a réussi à faire sortir que si je disais non, « Non, je ne suis pas prête à faire ça, non, je suis pas... » Les gens ne m'aimeraient pas moins si je leur disais non. Et ça m'a aidé de fou dans ma vie. Non, ils ne m'aimeront pas moins parce que je réponds moins.
Et aujourd'hui, tu en parles assez librement sur Internet. Donc, tu parlais de ton coming out. Moi, je te suivais déjà sur Instagram, donc je savais, mais est-ce que tu trouves qu'on comprend mal encore ce genre de maladie, que les gens n'ont pas vraiment assez d'empathie envers les maladies mentales, que c'est mal reconnu ? Est-ce que toi, ça t'a permis d'en parler plus librement et d'en parler avec des gens qui peut-être aussi vivent la même chose ?
J'ai toujours eu une communauté très, très, très bienveillante sur Instagram, que ce soit les blogs à l'époque ou quoi. Et du coup, en fait, les gens m'ont envoyé des messages en me disant « On sentait qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas quoi. » Et ça ne se demande pas, en fait. Et du coup, ils m'ont posé beaucoup de questions auxquelles j'ai pu répondre. Et ils m'ont remercié d'avoir répondu à ces questions parce que ils connaissaient pas. Parce que pour eux, c'est je reviens à Britney Spears qui pète un plomb, à Kanye West qui se dit qu'il est devenu prêtre et qui veut se présenter contre Trump. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est dur, quoi.
Oui, on a une mauvaise représentation de la bipolarité. On
ouais,
sait très,
c'est
très
même
mal
pas que c'est mauvais, c'est qu'on l'a vu, en fait, qu'on le voit qu'en crise.
Oui, c'est ça.
Ouais. On le voit qu'en crise, soit maniaque, soit vraiment la dépression. Et quand on voit la dépression, on dit « bon, il est maniaco-dépressif ». On ne dit pas forcément « il est bipolaire ». Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. J'ai dû faire je les ai mises en favori pour que les gens puissent les regarder. J'ai dû en faire deux tellement j'en avais. D'ailleurs, je suis très contente, je les renverrai vers ton podcast pour qu'ils puissent répondre à quelques autres questions qu'ils ont peut-être sur moi. Et tous les gens m'ont dit « Maintenant que tu nous as parlé de ça et que tu postes, t'as l'air beaucoup plus épanouie de ce qu'on voit. » Et en effet, ça me ressemble plus. Je fais davantage de collages, je fais... voilà.
T'écris toujours.
J'écris toujours, je me ressemble plus. Et même moi, c'est comme si je m'étais retiré une barrière, en fait.
Mais est-ce que t'as compris, en tout cas dans mon regard, que cette maladie... pour moi, ne te définit pas.
Non, je suis Pauline. Et je suis pas Pauline la bipolaire, je suis Pauline. Et il m'arrive, il est arrivé que, je suis bipolaire.
Oui.
Mais ce n'est pas un trait de mon caractère. C'est comme si tu disais, tiens, c'est Pauline, elle est diabétique. Tu vois ?
Moi, j'ai jamais ressenti ça. En tout cas, je me suis juste dit, ah, ça explique peut-être cette magie un peu que t'as. Et je me suis dit... D'accord. Alors, si c'est le diagnostic et que y a des moyens de l'aider à vivre avec, tant mieux. Mais ça n'a rien enlevé. Au contraire, j'ai eu l'impression que ça expliquait tout ton être, en fait. Mmh. Et ça a été dur, mais je savais pas comment être là pour toi.
Oui, comment réagir, évidemment.
Mais j'étais presque soulagée de mon côté de me dire que tu allais pouvoir avoir le choix de te faire accompagner.
Ouais, j'étais entre de bonnes mains.
Dur, mais j'imagine et j'espère que ça t'a soulagé d'avoir un mot sur quelque chose qui te faisait souffrir, en fait.
Ouais.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a une petite communauté autour de
Il y a une communauté autour de la bipolarité. Il y a une fille qui s'appelle la bipolaire décomplexée ou quelque chose comme ça, qui donne des conseils et qui a créé un groupe WhatsApp avec, on est 10 filles, on va dire, bipolaires. Okay. Qui,
dans toute la France ?
On est 3 toulousaines et d'autres qui sont dans la France, ouais. Et ça, c'est très bien parce que ce groupe te permet de voir qu'il y a autant de bipolarité qu'il y a de personnes touchées par cette maladie.
Et aujourd'hui, où on voit bien qu'il y a de plus en plus de célébrités qui sont bipolaires, mm-hmm. On parlait justement de Britney Spears et on parlait de Kanye West.
Il y a aussi Catherine Zeta-Jones qui l'est.
Est-ce que ça aide à pas dédramatiser, mais à populariser un petit peu les maladies mentales ?
Bah non, parce qu'en fait, on est au courant qu'ils sont bipolaires parce qu'ils ont fait des grosses conneries, quoi. Donc, au contraire, ça reste le truc un peu
Oui, c'est devenu
pire.
Trop voyant.
Et après, j'avais acheté des livres sur la bipolarité, justement sur les personnes dans le milieu pop. Pop et Psy s'appelle, et il est très très bien, je le recommande, qui est très bien. De Jean-Victor Blanc.
Qu'est-ce que la maladie t'a appris ?
La maladie m'a appris à me faire passer avant. J'ai toujours fait passer les gens avant moi, leurs envies avant moi, et maintenant c'est moi. J'ai appris à dire non. Je dis oui, il y a des trucs, hein. Je dis oui, je sors, je ne suis pas non plus la personne horrible, mais il y a des fois où je ne peux pas et j'ai appris à dire non plutôt que de me forcer. Et ça, c'est très important.
Et est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ceux qui traversent la même chose et qui auraient peut-être besoin d'entendre, je pense que déjà tu as dit beaucoup de phrases qui résonnent, qui résonneront, mais qui résonnent même chez moi, parce que voilà, je connais très, très mal cette maladie, je pense qu'on est beaucoup à très mal la connaître et à comment l'appréhender. Donc qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui traverse un peu la même chose en ce moment ?
Déjà, je conseillerais aux gens de ne pas s'auto-diagnostiquer. C'est pas parce que tu es de bonne humeur le lundi et que le mardi tu es de mauvaise humeur que tu es. Que tu es bipolaire. C'est pas parce que tu changes d'avis, oui, non, pendant ta journée, que tu es bipolaire. Il faut arrêter de dire des choses comme ça, comme « Oh là là, je me sens pas bien aujourd'hui, je suis complètement dépressif ». Non, tu es déprimé, tu n'es pas dépressif. Les mots sont très importants. Et après, je conseillerais aux gens, mais ça c'est mon avis personnel, je ne l'impose à personne, d'aller voir un psychiatre plutôt qu'un psychologue. Parce que le psychiatre peut te conseiller des médicaments, peut ajuster les médicaments, tandis qu'un psychologue ne te médicamentera pas, il n'a pas le droit. Donc il faudra qu'après avoir vu le psychologue, tu ailles retourner voir ton médecin traitant pour enfin pouvoir aller à la pharmacie. Après, tu peux très bien voir le psychologue si tu n'as pas envie d'être médicamenté. Et en plus, je vous invite à en parler à vos proches. Pas forcément à vos parents, pas forcément à votre meilleur ami, à une personne à qui vous pouvez en parler. Vous pouvez peut-être rencontrer ou avoir autour de vous des gens que vous sentez plus ouverts sur le sujet. Ne restez jamais seul là-dedans. Dans chaque ville, il y a ce qu'on appelle des bipotes, des bipoles. Ici, on a le bipole 31. Qui est gratuit à Toulouse, qui est vers Saint-Cyprien, excusez-moi.
C'est un lieu ?
C'est un lieu qui est gratuit avec que des...
Des bénévoles, quoi.
Ouais, merci. C'est des bénévoles qui organise des jeux de cartes, des jeux de société ou quoi pour les gens qui sont vraiment perdus dans la bipolarité et dans leur vie et qui essayent juste de les retrouver un peu et de leur redonner un peu de joie de vivre, on va dire. Essayez de trouver des choses comme ça autour de vous. Pas forcément ça, mais même quelqu'un qui est dépressif, vous pouvez lui en parler ou quoi, mais surtout ne restez pas tout seul.
Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, toi ?
Aujourd'hui, j'ai décidé, donc on en parlait, de faire toute la demande de
MDPH.
J'ai reçu une lettre d'eux comme quoi ils avaient reçu mon dossier qui était très complet et qu'ils s'en occupaient. Ça prend en moyenne 4 mois, donc voilà. Et j'ai fait la demande, j'en ai pas parlé à ma psy, ni à mes parents, ni rien. J'ai fait ma demande de moi-même, tout rempli mes papiers, avec ma médecin traitante, pour retourner à Opéry, pardon, parce que j'estime que là, j'en ai besoin en ce moment. Je sais où je vais, je sais quel mal-être je vais avoir, je sais qu'est-ce qui va me faire du bien, je préfère faire ça plutôt qu'aller de plus en plus mal et exploser en période de Noël, parce que je préfère y aller maintenant, 3 semaines, 3-4 semaines, et sortir à Noël. Parce que pour moi, les fêtes de fin d'année sont quelque chose de très dur pour tous les dépressifs, et j'ai besoin de ça maintenant.
Donc, j'imagine qu'il faut beaucoup de courage pour se dire qu'on décide sciemment de se faire interner pendant quelques semaines et de se couper un peu de son cocon familial.
Je me sens mieux à cette idée, ce qui est assez égoïste peut-être vis-à-vis d'eux, mais je sens que c'est ce qu'il me faut.
C'est pour revenir encore ouais, plus fort. Et est-ce que tu as envie de dire un dernier petit mot ? Moi, j'ai envie de dire aux gens d'aller voir ton Instagram. J'ai envie de leur dire de bien regarder et que la vie n'est pas faite que de bipolarité. Que c'est, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui nous définit. Mais est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on termine ce podcast ?
En effet, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Je réponds à tous les DM. Si vous avez des questions, si vous avez des choses ou quoi, n'hésitez pas. Vous verrez des photos de ma fille qui est magnifique, évidemment. je voudrais remercier mon mari, sans qui je sais que je ne serais pas là. Il fait tout pour moi. Personne ne pourrait faire plus pour moi que lui. Du fond du cœur, on s'engueule tant qu'on s'aime, mais... Jamais quelqu'un n'aurait fait la moitié de ce qu'il fait avec moi, donc je le remercie.
Au final, avec la bipolarité, j'ai l'impression que tu as eu aussi l'amour de tous, qu'on a parfois du mal à exprimer, mais peut-être que ça a fait ressortir du bon aussi de tes proches. Et j'espère que tu te sens aimé et que tu te sens protégé et que tu feras les choix qui te font du bien à toi. Voilà.
Merci. Merci Pauline.
Et c'est la fin de ce podcast. Edith, tu veux dire un petit mot au micro ?
Bien sûr, mes genoux, on va parler dans le micro. Alors,
qu'est-ce que tu veux dire ?
Micro, là.
Ah, attends, faut que tu lui mettes le casque.
En fait, des fois, il a mal à la tête à maman.
Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais ?
Des fois, le monde des câlins, alors tous les deux, on le fait.
Vous faites des câlins ?
Oui, à maman, pas. Des fois, le deux.
C'est toi qui demande ou c'est maman qui demande ?
Maman qui demande.
Et toi, tu fais des câlins, du coup ?
Oui, avec papa.
T'es un peu une machine à câlins, quoi.
Je suis pas trop une machine à câlins, on peut dire.
Bon, ben merci, Eddy, pour cette interview.
J'ai encore des choses à dire.
Qu'est-ce que vous voudriez dire ?
Là, en fait... J'ai joué à plein de jeux, mais je suis tombée 2 fois dans la cour.
Ah, ça c'est pas cool. Tu peux dire au revoir aux gens qui nous écoutent, Eddy.
Ah, vous avez écouté The Raconte Club.
Club.
Merci à Pauline d'avoir partagé son histoire au coin du feu. C'était un épisode important pour toutes les deux. J'espère que comme moi, Cette écoute vous donnera envie de mieux comprendre et de mieux entourer vos proches qui peut-être vivent une situation similaire. Et surtout, d'arrêter de stigmatiser les maladies mentales pour qu'elles soient mieux reconnues et mieux accompagnées. Je vous mets les liens des ouvrages dont parle Pauline dans les infos, car ils sont très intéressants. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un petit mot doux. Ou en vous abonnant à mon super Instagram, Raccoon Club Podcast, et surtout en partageant cet épisode, s'il vous a plu bien sûr. Vous retrouverez tous les épisodes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.